Dagon girl's been murdered! 17 years old!
Can you tell me who it was?
Laura Palmer!
He comes in through my window at night.
This kind of fire's very hard to put out. The tender boughs of innocence burn first. And then all goodness is in jeopardy.
Oh my God! What did you do?
And this case gives me a strange feeling.
Et bonsoir et bienvenue sur Grand Écran. On commence sur les chapeaux de roue avec la bande-annonce du remaster de Twin Peaks Firewalk With Me, le film légendaire de David Lynch, de sa, on va dire, grosse licence, son gros blockbuster, je sais pas comment dire autrement, son Marvel à lui, parce que c'est finalement une œuvre absolument charnière dans sa carrière, autant au cinéma qu'à la télévision, et ça c'est très rare pour le souligner pour beaucoup de monde dans le milieu.
Oui, clairement, David Lynch est aussi connu pour ses films que pour sa série, mais exactement. Nous ne sommes pas aujourd'hui pour parler de David Lynch.
Non, on n'est pas là pour parler de David Lynch. Merci Antoine de me le dire et pourtant, de pas de bifurquer là-dessus.
Car on pourrait prendre une heure de trop.
Pourquoi Twin Peaks? Tout simplement parce que, bien évidemment, le film est tellement blindé de la couleur symbolique dont on va parler au cinéma. Donc, le rouge, n'est-ce pas Antoine?
Le
salut,
rouge.
Huitième merveille du monde.
Oh bah bonjour, arrêtez-vous au feu rouge.
Voilà, exactement, bah oui, arrêtez-vous au feu rouge, on a d'ailleurs la petite lumière rouge avec nous, parce que pour dire qu'on est en enregistrement à la régie...
Et que nous sommes entourés de couleurs rouges.
On est toujours entourés de couleurs rouges, car le rouge est omniprésent. Le rouge, c'est quoi tout simplement? C'est un champ chromatique en fait, qui regroupe donc les couleurs vives situées sur le cercle chromatique entre l'orange et le pourpre. Donc, lavé de blanc, on a par exemple... le rose, s'il a sombré grisé, on appelle ça le brun. Opposé au vert, il forme en fait un des contrastes qui, avec celui entre le bleu et le jaune et celui entre le noir et le blanc, oriente donc la perception visuelle.
Absolument, et nous pouvons rappeler que la couleur rouge n'est pas apparue tout de suite chez l'être humain, enfin en tout cas chez la famille des grands singes, parce qu'au départ on ne voyait pas le rouge quand nous étions des petits singes dans nos arbres, il y a environ 40 millions d'années, et pourtant un jour il y a eu une mutation, ce qui nous a fait voir la couleur rouge. C'est pour ça qu'on a pu avoir les meilleurs fruits, les fruits les plus mûrs, et évoluer vers ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, le rouge nous interpelle autant. C'est que c'est une couleur relativement récente et nous ne voyons pas toutes les nuances du rouge. Contrairement au vert, où l'être humain a beaucoup plus de propension à voir toutes les nuances de vert, parce que ça fait des centaines de millions d'années que nous sommes habitués, en tout cas des dizaines et des dizaines de millions d'années que nous sommes habitués à voir les nuances de vert dans les forêts, etc. Alors que le rouge, lui, est plus piquant.
Exactement. Et c'est tout simple, un rouge, un vert et un bleu, ça suffit à voir donc la synthèse additive des couleurs. Donc différentes nuances de rouge peuvent servir à faire des couleurs primaires, et la théorie ondulatoire de la lumière, la bande rouge, est à l'extrémité de la moindre énergie du spectre visible, donc à la limite de l'infrarouge.
Exactement, l'infrarouge, absolument.
Donc oui, le rouge au cinéma, c'est une question hyper vaste, ça on peut le dire oui. D'une certaine manière. Le rouge, c'est une couleur donc omniprésente. Forcément, elle fait partie de nos vies, et d'ailleurs, elle est dans notre corps, puisque le sang est rouge d'une certaine manière. Mais on le voit partout dans le cinéma, que ce soit dès l'ouverture d'un film, par exemple Les Affranchis, avec sa magnifique séquence d'introduction avec le gangster dans le coffret de la voiture, qui finalement va se faire donc assassiner par Joe Pesci et enterré par les trois compères. On l'a également à la fermeture des films comme Les Frissons de l'Angoisse. Les Frissons de l'Angoisse, donc réalisés par le grand Dario Argento, spécialiste du giallo, donc le film de genre par excellence italien. Donc le film qui oscille entre le côté, on va dire, esthétisation de la violence, de la mort, et donc forcément aussi l'apparition, on va dire, à partir de cette époque-là, dans les années 70, d'un rouge vif très omniprésent dans le cinéma par sa couleur.
Alors le rouge était déjà présent au cinéma avant même oui. l'apparition de la couleur au cinéma, et c'est ça qui peut paraître contre-intuitif, mais par exemple, avant que les films soient en couleur apparaissent au cours des années 30, on utilisait parfois des pellicules entièrement rouges, ou entièrement jaunes, ou entièrement bleues, ou vertes par exemple, pour symboliser, bah, certains, par exemple le bleu était utilisé pour faire croire que c'était la nuit, mm-hmm. assez régulièrement.
La fameuse nuit américaine qui est encore par moments utilisée aussi, hein, attention.
Voilà, un petit filtre bleu comme ça. Et du coup on utilisait dans les années 10, dans les années 20, des filtres rouges, par exemple pendant les batailles, pour montrer que bah, c'est agressif, c'est violent, c'est fort. Et du coup, la couleur rouge existait déjà avant même l'invention du polychromatisme au cinéma. Mais dès qu'on a effectivement inventé le Technicolor,
oui.
Les couleurs étaient très chatoyantes, très très vives. C'est pour ça que le rouge est absolument, est perçant. Par exemple, dans les célèbres scènes de Autant en emporte le vent, la couleur rouge est quasiment pétante. La grande scène de l'incendie, le rouge est absolument partout. Et du coup, a fortement impressionné les spectateurs de l'époque.
Et le rouge, forcément, a toujours cet aspect aussi très, comme on l'a dit au tout début de l'émission, cet aspect très visible, très clinquant, comme par exemple aussi dans les chansons rouges de Powell et Pressburger.
Oui, bien sûr, pour qu'on puisse remarquer le petit objet le plus important du film, et ben, ils en ont fait tout petit, petit rouge bien piquant, bien clinquant. Et c'est vrai que même si ça partage quoi 0,1% de l'écran,
mais c'est visible.
On voit que ça.
C'est un exemple parmi tant d'autres, mais beaucoup de personnages sont vêtus de rouge dans le cinéma. Ça me fait penser également donc à Jeremy Irons dans Faux-semblant, le film de Cronenberg, avec sa tenue de chirurgien qui n'est pas blanc, qui n'est pas aussi cet aspect vert-verdâtre, un peu au bleu. C'est vraiment d'un rouge pétoyant, vraiment clinquant, assez presque organique, presque même
religieux.
Religieux,
d'une
certaine manière.
C'est religieux, ce qu'on remarque dans la pourpre cardinalis, comme on l'appelle, qui rappelle la pourpre impériale romaine, qui est justement une passation symbolique. On parlera des symboles tout à l'heure, mais qu'une passation symbolique de la couleur rouge pour montrer la pompe impériale, puis la pompe des plus hauts gradés de l'Église, entre guillemets, pour justement devenir un symbole religieux assez fort.
Le maître de cérémonie dans Eyes Wide Shut aussi. La couleur rouge a forcément un aspect très, très particulier chez Kubrick, mais voilà, c'est aussi des éléments qui sont forcément très, très représentatifs dans ce cinéma-là.
Oui, absolument. Oui, ça, il l'utilise constamment. Mais tout le monde, tous les grands cinéastes qui ont joué avec la couleur ont joué avec le rouge, peut-être même plus qu'avec les autres couleurs. Le vert, le bleu ont souvent été utilisés, bien entendu, on peut en faire des émissions entières sans problème, mais il faut dire que le rouge a sa petite place particulière, de ce côté agressif, ce côté on n'a pas besoin d'en mettre trop pour le voir un peu, pour le voir plus.
Oh, il suffit par exemple de le mettre sur l'antagoniste du film. C'est très très simple, c'est-à-dire c'est quelque chose de très très basique, notamment Hollywood. Hein. On peut le voir par exemple dans les Marvel avec Red Skull, l'antagoniste de Captain America.
Oui, on sait que lui, il n'est pas gentil.
Voilà, lui, il n'est pas gentil. Darkness dans Legend aussi de Ridley Scott. Hein, c'est donc cette espèce de grand monstre presque typé comme un Lucifer. On a en termes d'anti-héros, on peut également parler de Hellboy, mais Hellboy, ses origines, c'est les enfers. Donc forcément, il est relié avec le rouge.
Lui aussi, il est relié avec le rouge. Bah, tous les personnages qui, à un moment ou à un autre, dans les science-fiction ou autres, ont les yeux rouges, on sait qu'ils ne sont pas là pour discuter.
Oui, mais de toute manière, en fait, ce qui vient relier en fait, la thématique des enfers, en fait, généralement rougevoyant en fait, dans notre présentation, forcément plus avec notre héritage d'origine catholique. Par exemple, Harry, dans tous ses états de Woody Allen, il a un côté très très rouge, cet enfer. Ou même encore, en plus nanardesque, on a le Spawn, qui a un rouge très, très pétoyant, presque ardent en fait, hein, d'une certaine manière.
Un rouge rougevoyant.
Voilà.
Bonjour Spawn, on te salue.
Voilà, tout simplement. Bon, j'aurais pu dire aussi Bloody Mallory, tiens, tu vois, dans le cinéma français aussi.
Ah oui, oui, bien sûr. Mais Bloody Mallory a une place particulière dans notre cœur.
Oui. Non, mais c'est vrai que le rouge, en fait, est omniprésent d'une certaine manière. Le décor aussi a sa particularité de donner aussi une grande place au rouge dans le cinéma, dans tous les genres, même la planète Mars, forcément. On la voit dans Total Recall, on la voit sur Seul sur Mars, on la voit dans aussi la planète rouge. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de forcément représentatif, parce que c'est déjà le surnom de cette planète. Aussi.
Oui, bien sûr, Mars, parce que c'est la couleur du sang, c'est le dieu de la guerre.
Voilà.
Donc, alors que ça vient tout simplement du fait qu'il y a des particules de fer présents dans l'environnement.
C'est ça.
Qui donne cette couleur rouge, qui donne aussi sa, la couleur rouge au sang.
Et oui.
C'est le fer.
Tout simplement. La ville aussi en pleine construction dans les Hommes des Hautes Plaines. Je pense que c'est un exemple qui te fait plaisir
aussi.
Ah bah
ça, bien sûr, extraordinaire, où il dit, d'accord, je veux bien sauver votre village des brigands, mais dans ce cas-là, il va falloir faire tout ce que je dis, notamment repeindre toute la ville en rouge, littéralement. Et là, effectivement, il retransforme exprès la ville en enfer. C'est quelque chose de très... Enfin, que le spectateur comprend immédiatement, quoi, qu'il veut justement tuer cette ville en la sauvant. Et par exemple, on le remarque aussi souvent, c'est utilisé dans Luchino Visconti, en fait.
Oui.
Il y a toujours, par exemple, dans La Passion, je crois, un de ses derniers films, où le personnage est caché dans une pièce complètement rouge. Et souvent, il fait des pièces, des décors qui sont rouges... pour montrer que l'imminence du danger, pour montrer la passion, pour montrer quelque chose qui détonne justement, qui n'est pas normal. Parce que notamment quand on parle de chambre rouge, là ce qui pose problème, c'est que on peint jamais une chambre en rouge parce que le rouge excite. Alors que normalement on est dans une chambre pour dormir, mais lui ce qu'il veut, non, c'est dire il y a une chambre, d'accord, mais elle sera complètement en rouge, pour justement empêcher le spectateur et le personnage de s'endormir, de se croire dans un endroit sécurisé. Non, bien au contraire.
Quelque chose de totalement anodin en fait.
Voilà. Et du coup, on le remarque aussi souvent dans Grand Budapest Hotel, dans Shining, où il y a du rouge partout.
Grand Budapest Hotel avec ses ascenseurs, Shining, où carrément le sang sort de l'ascenseur. Donc en plus, il y a aussi cette symbolique-là dont on reviendra forcément là-dessus. Mais il y a un truc tout simple aussi. On parlait des Hommes des Hautes Plaines avec les maisons peintes en rouge, mais il y a aussi des maisons aussi qui sont faites de briques rouges. Et
oui.
Ça, c'est forcément très représentatif, notamment par exemple dans West Side Story, dans L'Impasse, mais on peut le voir également dans énormément de cinéma britannique, parce que forcément dans la société britannique ouvrière, les murs faits de briques rouges sont très représentatifs de la pauvreté anglophone.
Toutes les sociétés du Nord, là, le Nord de la France, la Belgique,
aussi,
les Pays-Bas, même le Nord de l'Allemagne, en fait, comme ce sont des plaines très argileuses, récupérer l'argile pour construire des maisons était extrêmement simple. Et du coup, effectivement, on peut facilement utiliser... Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de symbole de maison à briques rouges légèrement délabrées. Oui, voilà, ce sont des coins pauvres.
C'est ça.
Alors que quand on voit des châteaux en France ou autre, quelque chose en pierre, c'est quelque chose qui, à nos yeux, sonne comme quelque chose de plus riche. Et là, effectivement, ce rouge décrépit est plus annonciateur d'une pauvreté, d'une chute, qu'au contraire de la richesse blanche et pure que l'on peut voir dans le sud. Non, dans les châteaux en tout cas.
C'est ça. Et le rouge, en fait, surtout dans les décors, annonçait forcément quelque chose de dangereux, on va dire, qui allait arriver. Et ça, c'est peut-être l'une des belles représentations de Hitchcock dans son cinéma, d'une certaine manière.
Oui, qui a toujours utilisé la couleur rouge pour annoncer quelque chose de vif, d'agressif.
Comme par exemple dans Marnie. Mais aussi, surtout, forcément, on pense à l'avion rouge de l'homme aux trousses.
Oui, qui immédiatement, ça c'est plus qu'un danger,
voilà.
C'est la mort imminente. Pareil, le rouge dans Vertigo, j'aurai l'occasion d'en parler après, où justement il fait la nuance entre le vert et le rouge pour montrer qu'il se passe quelque chose de fort à ce moment-là du film, et on le comprend instinctivement.
Exactement. Et c'est vrai qu'en parlant de toutes les significations de rouge, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, dans les affiches de cinéma et dans les titres des films, il y a énormément de titres où le nom rouge apparaît énormément, et plus par symbolique comme dans d'autres. J'ai un exemple, et ça nous servira également de pause, bande originale, pardon, c'est La Ligne Rouge de Terrence Malick, qui est un paysage magnifique avec Guadalcanal et donc blindé de verre, de jungle, et aucunement de rouge, parce que même le sang émanant des soldats n'est très peu représenté dans ce film, parce qu'il est vraiment plus porté par la beauté visuelle des paysages et la façon dont l'être humain va le détruire à travers cette guerre. Et finalement, la ligne rouge aussi, c'est d'une certaine manière de montrer aussi tout ce que, on va dire, la guerre peut faire aussi envers l'humain et envers les spectateurs et envers les autochtones aussi. Voilà,
en ne montrant pas directement ce qui nous intéresse, cette agressivité, cette puissance, cette fureur, il la remet au centre du jeu.
C'est ça. C'est ça. Du coup, on va faire une petite pause BO donc de La Ligne Rouge. C'est un morceau très très connu, juste a cappella avec des jeunes enfants. Et voilà, donc c'était la pub pour la Maïf. Pardon, je voulais dire La Ligne Rouge de Hans Zimmer. Fallait que je la fasse, je suis désolé. Donc on revient sur notre sujet d'émission. Donc la couleur rouge, c'est une couleur forcément symboliquement ambiguë. Et d'ailleurs, c'est une couleur qui est forcément toujours reliée avec plein de monuments que l'on voit au cinéma, comme Moulin Rouge, comme le Golden Gate que l'on voit dans Vertigo, ou encore la Place Rouge de Moscou.
Bien
dans
sûr.
Mission Impossible.
Toujours.
Mais oui, le rouge, c'est surtout très symbolique. C'est symboliquement ultra représentatif pour plein d'émotions. C'est par exemple la représentation de l'excès, du trop-plein, de l'excitation, de l'énervement. C'est par exemple la petite représentation via le petit bonhomme rouge dans Vice-Versa, par exemple.
Oui, tout à fait, qui montre la colère. C'est voilà. Aussi le symbole de l'excitation, donc de l'érotisme. Et tout ce qui, bah, Moulin Rouge, ça ne parle pas autre chose que de sexe.
Voilà, voilà.
Les films X sont toujours un peu, enfin, associés à la couleur rouge, l'érotisme, l'amour, le sexe, qui justement symbolise aussi les excès, la mort quelque part, qu'on retrouve dans quasiment tous les films où il y a des scènes un peu de sexe, on retrouve assez régulièrement cette couleur associée.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une couleur tape à l'œil d'une certaine manière, le rouge. Hein, et le, comment dire, c'est une couleur qui ne s'en cache pas.
Le rouge à lèvres.
Oui, et ça renforce le langage cinématographique d'une certaine manière. Par exemple, un film en noir et blanc, avec une utilisation par touche de rouge, en fait, renforce aussi sa signification. Twixt de Francis Ford Coppola, le rouge représente le sang versé précédemment. Dans ce film, Sin City avec les draps rouges annonciateurs de mort, ou encore même la femme fatale au tout début du film habillée en rouge en fait qui va mourir. Il y a aussi ce côté en fait très symbolique. Peut-être l'un des plus représentatifs, c'est bien évidemment La Liste de Schindler de Steven Spielberg avec la petite fille en manteau rouge avec sa teinture symbolisant forcément l'horreur de la Shoah.
Bien sûr, et aussi c'est pas totalement rouge, c'est rose, mais on reste dans les mêmes tons dans le ni le ciel ni l'enfer
enfer,
d'Akira Kurosawa, où pour retrouver une valise, ils ont mis un produit qui, s'il est brûlé, devient rose. Et du coup, en plein milieu du film en noir et blanc, au milieu de la ville, on voit cette fumée rose, donc pas tout à fait rouge, il est vrai, mais on reste dans les mêmes tons qui tape l'œil pour montrer qu'on a retrouvé justement l'une des preuves les plus importantes de l'histoire. Et bien sûr, la couleur rouge qui symboliquement intradiégétique, mais extradiégétiquement parlant aussi, est extrêmement fort, c'est le rouge du communisme.
Et oui, le rouge très symbolique par cette couleur-là, notamment politique.
Le rouge de la commune.
C'est ça.
le rouge du sang versé du peuple pour combattre, qui combat le capitalisme et du coup est devenu le symbole de l'URSS, le symbole du communisme qu'on retrouve aujourd'hui.
Et de encore, tous les pays encore qui ont les origines communistes.
Bien sûr, Vietnam, Corée du Nord, voilà. Chine, etc. On va pas tous les nommer, mais il y en a. Mais du coup, effectivement, dans beaucoup de films, on parle de Red Dawn où c'est la fureur communiste qui s'abat sur l'est, sur l'ouest des États-Unis. Et du coup, voilà, aube rouge, on peut pas être plus clair dans le symbole.
Bah oui, tout simplement. La menace rouge, en fait. Tout ça.
La menace rouge, les communistes. Dans beaucoup de films, on sait que dès qu'on voit un drapeau rouge quelque part, c'est soit chez les pirates, qui signifie effectivement pas de quartier, on sait très bien qu'il n'y a pas trop de communistes chez les pirates. Enfin, on en parlera une autre fois.
Il y a peut-être débat là-dessus. Ouais,
on va pas faire trop de digressions, mais il peut y avoir des débats dessus. Et du coup, oui, effectivement, sinon c'est toujours la couleur rouge des grèves de tous les drapeaux communistes dans la foule, qui sont agités dans les films de propagande de l'URSS, montrer ce rouge qui est aussi quasiment, qui devient une couleur de l'ordre, parce que c'est une continuité de petits carrés rouges et tout d'un coup ça devient quelque chose d'ordonné. Donc le conservatisme, l'ordre communisme stalinien, qui devient aussi une couleur de l'espoir, une couleur de la force, plus que de l'excès, justement, anti-excès. Bien évidemment. C'est quelque chose qui impose le respect quelque part, en tout cas ce qui est voulu dans les films notamment de propagande, de montrer cette couleur rouge comme quelque chose de plus chatoyant et de plus qui n'assagit pas, mais qui montre une puissance.
Et qui dit force, dit forcément violence, dit sang, dit également mort. Car c'est forcément très représentatif avec la couleur rouge, comme on en disait auparavant. C'est des monstres mythologiques qui sont représentés en rouge. Par exemple, Dracula de Francis Ford Coppola. Quasiment tous les Dracula, en fait, ont toujours une teinture de rouge dans leurs films. Pas seulement parce que forcément, ils sucent le sang des êtres humains, mais aussi dans le Coppola, en fait, il est toujours très très intéressant, je trouve, parce qu'en fait le rouge est omniprésent, de l'armure du comte à la croix ensanglantée qui coule à flot, ça dès le générique, en fait, dès le début du film, nous met tout de suite dans cette ambiance, avec notamment ces arrière-plans où le ciel devient rouge, on sent que la guerre, en fait, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé, et donc en fait on voit toute la connotation aussi du film, forcément relié à travers la religion, la couleur du martyr et celle de la transformation pour Dracula.
Oui, bien sûr, parce que le principe même de la couleur rouge, c'est que ce soit la couleur du sang et aussi en grande partie la couleur du feu. Même si le feu peut paraître très jaune, il y a quand même une très très grosse nuance de couleur rouge dans le feu, et du coup cette association entre le sang, la mort, le feu, la destruction, qui convient parfaitement à toutes les représentations de l'enfer, font que dans notre imaginaire occidental aujourd'hui, tout ce qui est rouge, le feu rouge, c'est s'arrêter, c'est un synonyme de danger, d'agressivité, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'on ne peut quasiment pas faire l'impasse sur... Je sais pas si ça s'est fait, mais je crois ne avoir jamais vu de représentation de l'enfer sur des nuances de vert ou de bleu.
Il y a peut-être un seul exemple, mais là, on est vraiment sur une, on va dire, nouvelle représentation mythologique d'une vision des enfers à travers ce que l'on appelle Léviathan dans l'univers de Hellraiser. Donc on le voit dans le film, notamment Hellraiser 2, quand le personnage principal va dans les enfers, là où sont créés les Cénobites. On est dans un univers très froid, avec presque un aspect très... une architecture presque brutalique, enfin de brutalisme, très très froid, en fait, comme je disais, donc très bleuté, très très vide, comme si quelque chose de très ancien était là depuis très longtemps et il n'y a plus rien de vivant, en fait.
Oui, c'est vrai. Il joue un petit peu plus sur les couleurs jaunes aussi pour les flammes, donc pas trop rouge, plutôt jaune. Mais quand il sort à l'extérieur, on retourne sur des couleurs un peu plus chaudes.
Oui.
Effectivement, donc même là, il a eu un petit peu du mal à s'en sortir et c'est vrai que c'est difficile de pas mettre ne serait-ce qu'un minimum de feu ou un ciel un peu rougeoyant au loin, jaunâtre.
La création de Clive Barker sur cet univers-là, en fait, à travers cette mythologie qu'est Léviathan, il a voulu vraiment casser les codes de cette représentation typique de l'enfer, en fait. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu sur ce que je parlais de la thématique un peu du vampire avec Dracula de Coppola, on peut le voir également aussi dans le générique du Bal des Vampires de Polanski, avec ce générique où la goutte de sang, en fait, sur fond bleu, annonce forcément la couleur du film, en fait, où on voit la couleur descendre du titre, elle descend après sur le nom du réalisateur, des acteurs, enfin bref, le générique tombe comme ça. Et d'ailleurs, l'histoire de dans ce film, donc Sarah Chagall, qui est jouée par Sharon Tate, elle a les cheveux roux, elle a une robe rouge, elle est donc très mise en avant, on va dire, sur le plan, sur l'image, et donc elle a à la fois symbole de violence, donc c'est une proie pour les vampires, mais aussi de passion amoureuse, parce que c'est la fascination de Polanski aussi pour le personnage de Chagall.
Tout à fait.
C'est vrai que le sang, la mort, la représentation de la violence à travers le rouge au cinéma, elle est là aussi pour poser une ambiance. Si on prend en compte, par exemple, le giallo, donc le cinéma de genre italien, on va dire de manière globale et générale, parce que forcément, giallo, ça ne veut pas forcément dire uniquement cinéma de genre italien, le sang n'est pas uniquement là pour imbriquer, donc, on va dire, cette nuance de rouge. On la voit aussi dans certains films, pour vraiment renforcer, on va dire, cet aspect et cet univers totalement anxiogène, et c'est ce qu'a voulu faire notamment Dario Argento avec Suspiria.
Oui, parce que lui, il utilise la couleur comme un pinceau, enfin, c'est un peu pensif de dire ça au cinéma, d'utiliser la couleur comme dans une peinture, parce que ça nous paraît évident. Simplement, dans les giallo, et notamment Argento, utilise réellement les traits de lumière, comme si c'était simplement des coups de pinceau sur l'écran, et il donne une couleur qui a quelque chose de plus brut, de plus expressionniste. Et du coup, le rouge, quand il est utilisé comme ça, effectivement, force encore plus l'ambiance. C'est quelque chose que je trouve un peu instinctif, dans le sens brut et dans le sens évident, jeté comme ça à l'écran. Effectivement, Argento, dans l'utilisation des couleurs en règle générale, mais dans le rouge, effectivement, surtout le jaune aussi, il a inventé, en tout cas, il a apporté au cinéma, il a poussé quelque chose encore plus loin. On pouvait voir encore avant déjà dans les, par exemple, les Vincente Minnelli, quand il a fait son Van Gogh, il utilisait énormément les couleurs rouges, évidemment, parce qu'il parle de peinture, il a voulu s'amuser, mais on le voit aussi très bien dans un petit peu tous les films en rapport avec la peinture, comme par exemple, je pense à Un Américain à Paris, où la grande scène de danse se passe dans un décor, commence dans un décor rouge pour imiter Gauguin, je crois que c'était Gauguin déjà à l'époque, ou Degas, je sais plus exactement, bref, mais du coup on retrouve cette simili-reproduction des peintures, et du coup il fallait que grâce au Technicolor, la couleur soit clinquante, donc voilà. le rouge
il fallait que tout soit clinquant en Technicolor, parce qu'en fait quand tu reparlais de l'arrivée de la Technicolor, forcément c'était une révolution. Donc montrer de la couleur à l'image, il fallait qu'elle soit nette, il fallait qu'elle soit belle, il fallait qu'elle soit vivante. Donc c'était aussi la volonté propre aussi d'avoir des couleurs, on va dire, qui bavent en fait d'une certaine manière.
Oui, il voulait surtout pas avoir quelque chose de trop nuancé, de trop flou, pour pas que les gens le confondent avec le noir et blanc, tout simplement. On leur dit, vous allez voir de la couleur, vous allez en prendre plein les mirettes. Et du coup, on le voit très bien aussi dans Chantons sous la pluie, dès qu'il y a un peu de rouge, quelque chose qui transperce l'écran. Effectivement, ça a été utilisé de manière un petit peu différente dans le giallo, où la peinture est réellement, le trait de lumière devient réellement un trait de pinceau.
Oui, et même en fait, c'est des traits de pinceau, ça force aussi, comment dire, l'imaginaire, ça force aussi le côté trip visuel, et aussi forcément, ça peut également relier cela à travers ce que l'on peut voir sur des visions cauchemardesques, et l'un des films aussi bien représentatifs là-dessus, c'est le Mandy de Panos Cosmatos, qui va vraiment forcer toutes les nuances de rouge possibles, donc c'est-à-dire on va passer du rouge orangé jusqu'à presque un violet, en fait, sur énormément de nuances, et à travailler sur les visages des personnages, sur les décors, sur les mêmes jeux de lumière, sur les ombres, et ça c'est une des forces du film d'ailleurs, et aussi le rouge, toujours apparenté à la notion de danger, elle est également aussi toujours affiliée d'une certaine manière à la technologie. On l'a déjà vu quasiment avec Kubrick, avec le HAL 9000, donc l'écran juste rouge, avec cette petite diode en fait lumineuse qui représente donc l'intelligence artificielle. Mais on peut le voir également par exemple dans la vision subjective du T-800 dans Terminator, qui cherche sa potentielle cible, tout est de rouge en fait.
Oui, parce que dans l'univers de la science-fiction, comme le futur est très technologique, qu'est-ce qui est aussi associé à la technologie au futur? C'est le métal.
Ouais.
Et le métal, lui, quasiment par principe, n'a pas cette couleur rouge. Même le fer, quand il est poli, quand il n'est pas encore oxydé, il est gris, il est métallisé, il est fade, il y a un côté un peu pur. Et le fait de rajouter justement ces petites touches de rouge grâce aux diodes permet de montrer que cette technologie est vivante. que c'est que le métal peut s'animer. Et du coup, effectivement, l'œil rouge du T-800 ou T-1000 montre que c'est le T-800, oui.
C'est le T-800, Schwarzenegger, c'est le T-800.
Oui, le T-1000,
et Robert Patrick, c'est le T-1000.
C'est
voilà, T-1000. Pour vulgariser un peu. Il y a le modèle Schwarzy, il y a le modèle Patrick.
Et du coup, dans le 2, là où c'est renversé et que ça devient intéressant, c'est que l'œil rouge du Terminator gentil devient au contraire synonyme de « Ah bah c'est le gentil qui arrive », alors que le méchant, lui, c'est un amas de métal fondu qui est totalement gris.
Et surtout, en fait, quasiment toutes les scènes, on va dire les séquences de meurtre de la part du T-1000, elles sont toujours très froides. Parce que forcément, là, cette fois-ci, on est relié sur du liquide. Donc, il y a des teintures un peu plus nuancées de bleu. Par exemple, le meurtre, quand il part à la recherche de Sarah Connor, donc dans l'hôpital psychiatrique. Là, ça se déroule de nuit. Donc, en plus, ça va renforcer l'aspect bleuté. Et là, on voit un peu plus sur le côté froid, en fait, du personnage. Forcément, parce que c'est une machine.
Voilà, alors que plutôt vers la fin, quand il y a la bataille finale,
c'est
à la fonderie, donc tout explose, on est dans l'enfer, et on a droit justement, au contraire du début du film où les meurtres sont plutôt froids, là c'est clinquant, il y a du bruit partout, c'est rouge, ça bouge, c'est très animé, alors que dans les premiers meurtres du début, on est dans des prisons, c'est froid, ça ne bouge pas.
C'est ça.
C'est aussi là où le grand intérêt du film de faire évoluer le film vers quelque chose de plus animé, de plus chaud.
Après, c'est aussi une des forces de la part de certains réalisateurs de travailler sur le rouge d'une certaine manière, parce que ça veut toujours montrer en fait cette omniprésence, mais aussi en fait comment l'univers en fait va jouer sur ces personnages-là, va jouer sur leurs conditions, va jouer sur les effets et même donner des indices aux spectateurs sur leur psychologie. Dans Cri, chuchotement par exemple d'Ingmar Bergman, donc le film de 72, où un personnage est rongé par la maladie, il est entouré de rouge, du sol au mur, il est. Et en fait, s'en vient à contaminer même la pellicule via des fondus. Donc, ça, c'est très intelligent de la part de Bergman pour montrer en fait à quel point le personnage est condamné. Après, le rouge peut forcément être annonciateur aussi d'une certaine manière à un corps qui vit et est là pour sauver les gens, donc les pompiers, les médecins. C'est notamment l'une des particularités de l'affiche de À tombeau ouvert de Martin Scorsese, avec cette fameuse croix rouge où l'intérieur on voit donc le visage de Nicolas Cage et le reste du film, enfin le reste de l'affiche est totalement teinturé de rouge.
C'est aussi le cas de manière un petit peu plus triviale, c'est le cas de Superman qui d'accord est associé au bleu mais aussi
mais la
au
cape rouge.
La cape rouge, la force.
Et le S, oui.
Et le S rouge aussi qui montre que quand il est là, c'est pas pour faire des papillotes.
Oui.
Et aussi, moi, un symbole que je trouve intéressant, c'est dans Matrix, la femme en rouge, quand il traverse la rue, il se retourne sur la femme en rouge parfaitement habillée, mais qui est aussi dans une tenue de soirée, alors qu'il marche dans la rue et que tout le monde est habillé de manière un peu habituelle, casuale.
Très casuale, on va dire très blanchâtre, soit en noir, soit en blanc, donc totalement invisible, en fait, dans le milieu naturel urbain, en fait.
Et alors que la femme en rouge, elle, est clinquante, il est obligé de se retourner dessus, et on lui dit, mais dans cette simulation, tu t'es retourné vers une femme, pourquoi? Et au final, on lui dit, mais pourtant, tout n'est qu'illusion, pourquoi est-ce que tu t'es juste retourné sur cette couleur-là? Ce qui est quand même assez malin, pour le coup, des frères Wachowski, de nous parler d'illusion grâce à cette couleur rouge, qui est quand même assez puissante.
Alors, le rouge est forcément affilié par différentes cultures, et forcément dans différents aspects cinématographiques, aussi à différents corps et émotions, notamment donc l'amour, la passion. Et c'est vrai que par exemple, on en parlait donc notamment avec Hitchcock, Vertigo, dans sa représentation passionnelle entre deux personnages, mais aussi dans les films asiatiques, c'est beaucoup plus remarqué en fait. Donc par exemple dans le cinéma chinois, épouse et concubine, avec ses lanternes rouges, en fait, elles s'allument lorsque les épouses passent leur nuit avec leur conjoint. Donc c'est très représentatif aussi, forcément, d'une certaine culture. Chez Wong Kar-wai,
mais je crois que c'était les loupanards à Shanghai ou autre, il y avait des lanternes rouges pour indiquer dans quel endroit tu étais.
Aussi, oui.
Un peu comme nous, il y a les signes tabac à côté des bureaux de tabac.
Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, le rouge, notamment donc, dans la culture chinoise, c'est signe de félicité, c'est signe de richesse. Et d'ailleurs, chez Wong Kar-wai, il relie ça à l'amour, notamment donc, les escaliers rouges de Stairs Go The Pie, pardon, ou encore les rideaux dans le long couloir de In The Mood For Love, qui relie toujours forcément les deux amants.
Absolument.
Voilà, donc c'est comme vraiment un lien de projection entre deux personnages qui vont forcément se relier à travers un amour charnel. Alors, il peut être forcément parodié, cet amour, cette passion. Par exemple, dans un éléphant, ça trompe énormément. Annie Dupéré se transforme en Monroe malgré elle. Et aussi, donc, bien évidemment, le rouge est toujours relié avec le sexe. Donc, l'Empire des Sens de Oshima. Ou encore, forcément, à travers le corps féminin, les règles dont on a déjà parlé avec Carrie de Brian De Palma.
Oui, même dans l'Empire des Sens, souvent, ce rouge du sexe est directement lié à ce rouge du sang qui là où il prend un raccourci direct pour vous dire le sexe c'est la mort point barre c'est le but du film. Il n'y a pas de c'est l'érotisme, c'est la passion, c'est la luxure, non, ça va beaucoup, enfin c'est là où l'utilisation du rouge est plus directe aussi. Et c'est là où le cinéaste ou la cinéaste doit faire attention justement dans cette utilisation là de se dire qu'est-ce que je veux dire à travers ce rouge là est-ce que c'est celui de l'agressivité de la mort, est-ce que c'est celui de l'agressivité de la vie pour se battre, etc. Et du coup, il y a beaucoup d'indices laissés par les spectateurs, comme on parlait tout à l'heure de Red Skull dans les Marvel, où lui, c'est une agressivité mortuaire, contrairement à, de l'autre côté, chez DC Comics, Superman, qui a un rouge qui est plus le rouge de l'espoir.
Et surtout que la création du personnage de Red Skull, pour en digresser un petit peu, c'était une façon de pas trop revenir sur l'ennemi originel de Captain America, parce que Captain America a été créé durant la Seconde Guerre mondiale, et son premier ennemi, c'était bien évidemment Adolf Hitler.
Oui.
Que l'on ne pouvait pas remettre forcément tout le temps dans les comics, donc on a recréé un personnage qui a des origines un petit peu tendancieuses nazies, et on en a fait une saloperie qui a créé donc notamment l'organisation Hydra, et c'était le personnage, donc il fallait bien le représenter d'une certaine manière, donc on en a fait un personnage qui a perdu son visage, et donc forcément le rouge est omniprésent, donc Red Skull, voilà.
Oui, justement, à l'inverse, c'est Marvel qui a inventé le personnage de Daredevil, qui est très associé au rouge, mais comme il le dit dans le nom, Daredevil, ça a plutôt, moi j'ai l'audace du diable, donc pour l'utiliser pour le bien, donc c'est aussi cette forme d'agressivité, mais dans le combat pour la justice.
De toute manière, Daredevil c'est un personnage très christique en fait, par excellence, parce que c'est un personnage qui est extrêmement porté par la religion dans la création de ce personnage. C'est pas pour rien que Frank Miller en a fait un personnage aussi qui est très métaphoriquement quasiment placé au rang de martyr, que ce soit dans son environnement ou d'ailleurs avec la mort du personnage de Elektra que Frank Miller fait à ce moment-là dans les BD. C'est aussi une certaine manière pour montrer en fait que chaque action a forcément toujours des conséquences et qu'elles sont terribles ou pas. Et en fait, il y a ce sentiment de justice et la justice se fait toujours à travers le sang. Alors ça, c'est toujours très représentatif chez Frank Miller, mais c'est totalement imbriqué aussi forcément dans cette vision de religion catholique.
Absolument.
Voilà. Alors, on va faire une petite pause BO. Issue du film, d'ailleurs, film d'horreur, Scream, Red Right Hand de Nick Cave.
Okay. to feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
C'est enfin l'heure de notre dernière partie d'émission sur Le Rouge au cinéma. On va faire un petit tour de table. Donc Antoine, quel rouge t'as le plus marqué au cinéma ?
Alors l'un des rouges qui m'a le plus marqué au cinéma, parce qu'évidemment faire une véritable liste d'absolument tout chaque moment, c'est un peu dur. Mais moi je vais en prendre un qui m'a quand même beaucoup marqué, que je trouve magnifique, qui fait partie d'une des plus belles utilisations au cinéma, c'est dans Vertigo de Hitchcock, où il y a un homme qui demande à James Stewart de lui dire, écoute, je crois que ma femme se comporte bizarrement, j'aimerais que tu en tant que ex-flic, que tu deviennes un détective, que tu la suive. Et James Stewart, tu dis, écoute, c'est un peu spécial, j'ai pas forcément le droit de faire ça, mais son pote lui dit, écoute, pour te convaincre, je te propose de la rencontrer. C'est-à-dire que on va aller dans un restaurant un peu chic ce soir avec elle et moi. Et toi, si tu veux, tu seras à côté, tu boiras un café et tu pourras la voir. Et du coup, effectivement, on voit à la table, au comptoir du restaurant, James Stewart qui boit un café, lit son petit journal et qui, de manière un peu subtile, se penche en arrière pour regarder la femme en question. Et du coup, il y a un plan extraordinaire de Hitchcock où il y a un panneau arrière sur James Stewart qui se recule, panneau latéral pour montrer ce qu'il voit. Donc effectivement, les tables avec les gens assez riches qui dînent tranquillement. Et toute cette salle est en rouge vif, et il y a effectivement, après le panneau latéral de la caméra, une robe verte, et du coup une femme dans cette robe verte qui est un petit peu éloignée, et il y a un panneau, enfin un petit zoom vers cette robe verte, et du coup il y a ce vert qui est magnifique au milieu de ce rouge perçant. Dans ce mouvement de caméra incroyable, et surtout, comme on disait au début d'émission, le vert et le rouge qui sont pas forcément censés bien se marier, sauf que là Hitchcock,
là c'est le mariage parfait
parce que Hitchcock arrive à rajouter une espèce de clair obscur, de petite pénombre,
notamment
un peu
sur le
touche,
vert et un peu par le rouge aussi avec les rideaux derrière. Voilà. Aussi.
Ce qui permet justement de faire une nuance entre ces deux couleurs là. Et il y a un mariage entre les deux que je trouve merveilleux. Déjà, l'invention du plan de ce mouvement relativement simple de caméra, qui pourtant montre tellement de choses, l'ambiance feutrée du film, qui justement montre que le film sera quelque chose d'un peu détective, un peu simple, et en même temps extrêmement profond.
Et on ressent tout de suite ce que ressent le personnage de Stewart aussi. Donc,
voilà, oui.
C'est aussi... Là où le plan marche, en fait, c'est que Hitchcock a réussi parfaitement à insérer le spectateur dans ce moment-là.
D'instinct, on aurait presque dû faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans une pièce un peu verdâtre, un peu nuancée vert, et
c'est techniquement, ça devrait être... Enfin, techniquement, dans l'évidence de la couleur symbolique, normalement, ça devrait être l'inverse. Mais Hitchcock... n'est pas lui, comme tout le monde.
Voilà, lui, on devrait se dire, non, là, c'est la robe qui devrait être rouge pour montrer que la femme représente le danger pour le personnage de James Stewart.
Oui, on est vraiment dans un film détective, presque film noir, avec donc le côté personnage femme fatale.
Et du coup, Hitchcock
dans le schéma classique.
Moi, je vais faire l'inverse d'un film noir, je vais faire un truc beaucoup plus feutré, il n'y aura pas forcément trop d'action, trop de violence, ça va être beaucoup plus profond.
C'est ça.
Et du coup, le danger, ce n'est pas forcément la femme, c'est... tout le film, c'est tout qui se met en place autour de James Stewart, qui se fait happer dans ce décor et qui va du coup un peu le noyer dedans. Et puis évidemment, il y a ce qu'on disait tout à l'heure...
Ça renforce l'aspect psychologique que veut mettre Hitchcock dans ce film, de toute manière.
Bien sûr, l'appel psychologique, mais aussi il y aura des rappels. Par exemple, la première fois qu'il rencontrera réellement cette femme, ce sera quand elle tombera à l'eau juste à côté du Golden Bridge, donc encore ce rouge. Et du coup, Hitchcock, qui constamment, à travers tout le film, parle de ce rouge, et je pense que c'est une utilisation extraordinaire de cette couleur au cinéma.
Avec d'ailleurs une affiche absolument magnifique.
Ah oui. Et d'ailleurs aussi, il y a une introduction, un générique...
Ouais, de Saul Bass encore.
De Saul Bass, qui a été révolutionnaire à l'époque, où on voit des espèces de spirales qui justement attirent le spectateur dans toutes ces couleurs, qui justement l'attirent un peu dans les profondeurs de l'âme et de l'histoire, du plot.
Oui, totalement. C'était l'une des grandes particularités de Saul Bass. Hein. C'était un des plus grands créateurs de génie. D'ailleurs, aussi avec sa femme, en termes de générique. Il ne faut pas oublier sa femme également, qui bosse avec lui.
Oui.
Qui a bossé donc autant de Hitchcock avec Scorsese. Il a notamment fait également le générique de Casino, par exemple. Alors, de mon côté, je vais casser l'ambiance, je vais en prendre deux en fait d'une certaine manière. Tout d'abord parce que pour ma part le rouge, je ne peux pas forcément ne pas parler du rouge sans parler de David Lynch, car je trouve que l'utilisation de Lynch et les couleurs a une symbolique assez puissante, et pas seulement le rouge, parce qu'il suffit de voir par exemple le Blue Velvet avec son d'ailleurs avec le titre du film aussi, ou auquel Bobby Vinton ne voulait pas du tout être associé avec son morceau, mais finalement avec les générations d'après, c'est le cas. Alors Lynch, notamment avec ses rideaux rouges que l'on voit à travers son différent cinéma, donc que ça soit autant, comme j'en parlais apparemment, avec Twin Peaks, mais aussi avec Mulholland Drive, donc a toujours une force symbolique, une excellence en fait dans l'utilisation de la simple pureté de la couleur. Le rideau rouge, ce qui est fort, en fait, tout simplement, c'est que forcément, le rideau, il est ondulé. Donc, quand on travaille avec la lumière, ça ondule également la couleur, les ombres, l'esprit, les âmes aussi des personnages que l'on peut forcément retrouver en premier plan et les rideaux en arrière-plan. C'est pas anodin que, par exemple, donc, le personnage de Naomi Watts et de sa coloc qui se retrouve donc, dans ce fameux théâtre avec Olivia Del Rio qui chante face à dans une grande pièce de théâtre, donc avec forcément des rideaux rouges derrière. Il y a la rouge qui est quasiment omniprésent dans tout ce film. Dans Twin Peaks, forcément, c'est d'un symbolisme pur et évident. Il est la porte d'entrée dans un nouveau monde, la fameuse loge noire,
oui.
Avec ces fameux sols aussi également ondulés de noir et de blanc. Avec également le nain en costume rouge.
Des rideaux rouges, je crois, dans la loge noire.
Oui, c'est ça. Oui, c'est les rideaux rouges partout. Encore, oui. Encore, ouais. Oui. C'est vraiment cette entrée, cette porte d'entrée dans ce monde, en fait, tout simplement. Donc, c'est même pas de porte ni rien, c'est des rideaux. Donc, en fait, c'est aussi encore plus symbolique sur l'aspect, comment dire, théâtral, jeu, d'une certaine manière. Parce que finalement, on entre dans un autre monde, mais on reste dans le même corps. Et c'est aussi sa force à travers Lynch d'utiliser les couleurs de cette manière-là. Et aussi d'une autre manière, j'avais envie de revenir un petit peu sur Mandy de Panos Cosmatos, parce que je trouve que c'est un film absolument incroyable dans sa manière de nuancer la couleur de rouge à travers différents plans, à travers différentes scènes. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu là-dessus, le personnage donc, principal campé par Nicolas Cage s'appelle Red. Il y a dû encore plus de symbolique dans cette histoire-là. Finalement, c'est une quête de vengeance aussi. Mandy, c'est une histoire d'amour. Il y a en fait finalement tout cela derrière un fond de film Z, hein, on va dire quand même directement. Mais ce n'est pas une coïncidence, en fait, si la couleur rouge traverse le film comme un espèce de leitmotiv. Et pour revenir en fait sur une interview en fait du directeur de la photographie Benjamin Loeb, qui a bossé donc sur Mandy de Panos Cosmatos. Donc, je cite, on a vraiment envisagé de développer cet univers un peu cauchemardesque autour de la couleur rouge. C'est pour ça qu'elle revient assez régulièrement dans le film, que ce soit dans la direction artistique, mais aussi dans les éclairages, en jouant les effets à partir d'éclairages LED assez ponctuels, ou de sky panel. Alors sky panel, c'est des gros projecteurs, hein, donc. Et pour les champs plus vastes. Et c'est vrai qu'en fait, quand on voit le travail assez nuancé, notamment sur les différents plans, parce que le film a été tourné forcément en fait, de différentes façons, 75 mm, 50 mm, donc on voit des plans plus ou moins écrasés en fonction du personnage principal. Et c'est là aussi la force en fait, de Mandy, c'est qu'en fait, il va vraiment... Panos Cosmatos va vraiment jouer à fond là-dessus, en fait. Que ce soit les personnages qui portent le rouge, que ce soit les personnages qui sont salis par le rouge du sang, ou que ce soit les personnages qui sont en fait... imbriqué dans le rouge visuel à travers le décor qui l'imprègne.
Absolument.
Je sais pas, tu l'avais vu, non?
Oui, j'avais vu une fois. Oui, je le connais absolument pas par cœur, ce film. Je peux que acquiescer à ce que tu dis.
Ouais, ouais.
Mais effectivement, oui, c'est surtout toutes ces couleurs rouges, violettes, toutes ces nuances et déclinaisons. On se rend compte que, effectivement, Panos Cosmatos s'est dit, je vais faire un énorme délire autour du rouge. Vous allez en prendre plein la gueule.
Ah oui, mais non, mais c'est
et
fou,
ça va
en fait.
Renforcer. Non, et du coup, ça rendait pas le film kitsch.
Non.
Disons que c'est vraiment, ça renforçait effectivement tous les états à travers le personnage dans lesquels le personnage passait. Effectivement, c'est une utilisation que je trouve assez marrante parce qu'elle est poussée à l'extrême.
Mm.
En même temps, ça le rend pas forcément kitsch ou trop parti non plus. Il y a quelque chose qui fonctionne.
Oui.
Dans cette utilisation.
Comme le disait Benjamin Loeb, en fait, une autre constante a été celle de l'utilisation donc des filtres. En effet, dès les tests caméra et optique qu'on a pu faire lors de la très courte préparation, Panos en fait a insisté pour qu'on prenne avec nous des filtres chocolat, tabac, rouge, orange, dégradés de toute nature. Exactement comme ceux que n'hésitaient pas à utiliser les chefs opérateurs dans les années 80. Sur le plateau, il n'était pas rare que je me retrouve avec différents types de dégradés, et notamment donc pour à la fois le travailler sur le même plan et en fait créer des embouteillages de pare-soleil. Donc c'est vrai qu'en fait le chef opérateur en fait il a été très vite encouragé par le réalisateur pour baisser progressivement on va dire la ligne d'horizon en fait du dégradé, et en fait on atteint presque les yeux du comédien en fait d'une certaine manière dans cet aspect là quoi. Et ça c'est très très fort en fait de la part d'une certaine cohésion artistique entre le technicien et le réalisateur, car en fait c'est un but très précis, c'est-à-dire autant rendre hommage on va dire, dans les films des années 80, un peu comme l'a été notamment par exemple Black Rain de Ridley Scott, qui a une imagerie très, très typée. En plus, c'est des films qui se déroulent quasiment de nuit, en fait, tous les deux, et donc qui travaillent sur de la lumière totalement artificielle, mais qui arrivent à vraiment instaurer une couleur que l'on peut finalement, peut-être la plus malléable aussi, à travailler la nuit, le rouge.
Oui, oui, qui perce à travers le noir et qui justement donne une ambiance un peu fantomatique, infernale.
C'est ça. C'est ce que veut faire Panos Cosmatos, c'est ce qu'a réussi à faire pas mal d'autres réalisateurs en son temps, comme Dario Argento et Suspiria, quoi.
Absolument.
Voilà. Alors, c'était tout pour nous. On revient donc la semaine prochaine avec un autre sujet. On s'arrête donc avec un morceau issu du film, j'ai oublié le nom, donc bah, Mandy, je suis bête, je viens d'en parler, Children of the New Dawn, du regretté Ian Johansson. Et on revient donc la semaine prochaine. Merci Antoine, merci Pierre à la régie. Ciao tout le monde.
Ciao.